Bonjour à tous. Pour ne pas prendre trop de retard, on va commencer sur cette première table ronde. Un an après le 6 mai 2012, construire une alternative à gauche. Donc, pour cette première table ronde, nous sommes avec Marie-Pierre Vieux, du Parti communiste, Martine Billard, coprésidente du Parti de gauche, Delphine, elle, de la gauche unitaire, et Clémentine Autain, de la FAZ. Alors, pour avoir un débat un peu animé, je pense qu'on va avoir des prises de parole successives. On va essayer d'avoir, de donner à chacune trois prises de parole. Donc, je vous demanderai de vous en tenir à 5 minutes sur chaque intervention. Hein. Un peu plus d'un an après l'élection de François Hollande, la promesse de changement qu'il a fait élire n'est pour la plupart de nos compatriotes plus qu'un souvenir. Au milieu de l'été, le gouvernement a annoncé comme une victoire une reprise de la croissance, bien timide, dont on ne voit pas les effets, puisque le chômage continue d'être toujours plus important. Chaque mois, il y a de plus en plus de chômeurs et on bat des records. Et plus grave encore, tout aussi grave, on a pu voir cet été que les salaires impayés atteignent un niveau qu'on n'a jamais vu depuis 2008, ce qui montre la déficience des entreprises. Et comble de tout, l'objectif premier du gouvernement qui était de redresser les comptes publics, c'est l'objectif qui justifie tous les sacrifices demandés. Cet objectif est un échec puisque la dette continue d'augmenter. Alors chacun peut constater les doutes, les déceptions autour de nous. L'impopularité du gouvernement, elle est patente et visible. À Politis, journal où je travaille, on n'a pas la religion des sondages, mais tous les sondages montrent qu'il y a une grande impopularité. Ce qui fait craindre, par un retour de balancier, que les électeurs et nos concitoyens se tournent vers la droite la plus extrême même. Alors, première question que je voudrais vous poser, que peut faire le front de gauche pour imposer un changement de cap dans l'année qui vient, parce que s'il faut attendre 2017 pour espérer voir un changement, là c'est assez désespérant. Alors peut-être Delphine, elle, si tu veux bien commencer.
Ça marche ? Oui. Bon. Non, mais le tableau qui vient d'être dressé est assez juste sur les conséquences que ça peut avoir au niveau, tant au niveau social qu'au niveau aussi politique, parce qu'il y a aussi la question de la confiance envers la gauche. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire le front de gauche dans cette situation ? Si on part du point de départ que le front de gauche a pour ambition d'agir au cœur de la gauche, on en arrive tout de suite au premier point qui est de savoir comment on peut entre guillemets enclencher des dynamiques pour permettre ce changement. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs points d'appui sur lesquels on va avoir, notamment à la rentrée, à travers les mobilisations sociales. Ça commence avec la question des retraites, où on va pouvoir enclencher une dynamique qui a déjà été amorcée par le biais déjà d'un cadre unitaire et d'un appel. Mais on a une date de mobilisation et le camp social essaye de mobiliser pour le 10. Ce à quoi on est face aussi à un problème de la part du gouvernement, c'est qu'on assiste non seulement à un accroissement de la division syndicale sur les thématiques sociales, mais aussi à une distorsion temporelle du simple fait que le gouvernement tarde à annoncer ses principales orientations sur le sujet. Et donc, du coup, ça crée des difficultés, y compris que ce soit pour les organisations syndicales ou les organisations politiques, à mobiliser. Ceci dit, le Front de gauche devrait avoir pour mission de créer des points de convergence à travers l'ensemble de ces mobilisations, que ce soit sur les questions plus largement d'égalité, de justice et de démocratie, et qui nous permettent ensuite d'enclencher une dynamique pour arriver à enclencher une réflexion sur des politiques alternatives, alternatives aux politiques austéritaires menées par le gouvernement. Donc de là, le 16 juin a eu lieu un premier, on va dire, grand rassemblement sur le changement de cap qui a été très large à gauche et dont on peut se féliciter de par sa tenue. Mais ça, ça reste un premier pas. Il faut aujourd'hui continuer ces pas-là, que ce soit au niveau, localement, que ce soit départementalement ou régionalement, pour continuer à discuter avec l'ensemble de la gauche, le mouvement syndical et le mouvement associatif, juste que ce soit pour créer des points de convergence, mais en même temps discuter collectivement de ce que pourrait être une contre-proposition sur la réforme des retraites. Et ça va être à nous justement aussi de réfléchir sur les propositions qu'on pourra amener sur le sujet. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a des leviers qui existent, mais le problème, c'est comment on arrive à enclencher la dynamique. La dynamique, ça va être aussi selon si nous, on arrive à impulser des propositions qui pourront être des propositions faites à l'ensemble de la gauche et qui nous permettent justement de créer des mobilisations populaires. Il ne faut pas oublier non plus que si on en arrive à ce point-là, c'est que les classes populaires aujourd'hui sont un peu orphelins d'un projet d'émancipation et de transformation sociale. Et ce projet qui nous fait défaut aujourd'hui, que ce soit pour les militants, que ce soit aussi pour les citoyens, il nous faut le remettre en avant, il faut continuer à le développer, il faut continuer aussi à le populariser, et c'est à travers les mobilisations et des mesures d'urgence qui pourraient être extraites de ce projet-là qu'on pourra tirer l'ensemble de la mobilisation vers le haut et arriver justement aussi à un changement de cap. Donc c'est un peu aussi la combinaison de l'ensemble de ces éléments qui nous permettrait d'avancer plus concrètement sur le terrain. Et après, ce sera aussi au Front de gauche d'arriver avec des campagnes à la rentrée, notamment sur la question des retraites, commencer aussi à amorcer ce que pourrait être une alternative de politique réellement à gauche, qu'on pourra aussi développer ces dynamiques. Mais le tout est de penser aussi que le Front de gauche, à lui seul, ne pourra pas forcément arriver à créer cette autre majorité pour une autre politique, mais c'est aussi en discutant avec l'ensemble des forces du mouvement social et syndical qu'on pourra essayer de tirer toute cette dynamique vers le haut. Ouais.
Alors, Martine Billard, toujours la même question avec peut-être un petit supplément par rapport à ce que Delphine vient d'évoquer pour constituer une majorité alternative. Pour l'instant, au niveau institutionnel, la majorité, on la connaît, ça paraît bloqué jusqu'en 2017. Est-ce que dans les forces existantes, ou en tous les cas ceux qui siègent pour nous représenter à l'Assemblée nationale, au Sénat, est-ce qu'il y a les moyens de trouver des appuis pour aller aussi vers un changement de cap ?
Alors, quand on regarde la situation actuelle, c'est vrai qu'il y a un désaveu des politiques du gouvernement massif. Hein, toujours avec les limites sur les sondages, mais il y a un sondage CSA de juillet qui dit 31% des Français font confiance au chef de l'État pour affronter efficacement les problèmes. Ça veut dire qu'il y en a 69% qui ne font pas confiance. Hein, et le sondage IFOP qui dit seuls 30% des Français estiment que le PS est proche des préoccupations des gens. Je crois que ça dessine assez bien la situation aujourd'hui. Bon, que nous, on a assez coutume de résumer par le thème « on espérait, on n'attendait pas grand-chose de ce gouvernement », mais malgré ça, il arrive encore à nous décevoir. C'est vrai que quand on fait le bilan d'un an de gouvernement, en dehors du mariage pour tous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a rien, et il n'y a notamment rien du côté économique et social. Bon, après tout, Hollande avait bien clairement dit qu'il se situait dans la trajectoire portée par l'Union européenne de politique d'austérité déjà mis en œuvre dans d'autres pays, et c'est ce qu'il fait avec constance, avec l'ensemble de son gouvernement depuis un an. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année a été une année totalement gâchée, parce que non seulement, comme tu l'as dit, Michel, la situation de leur point de vue ne s'est pas améliorée par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés, mais elle s'est même dégradée. Mais nous savons que ce type de politique d'austérité menée dans les autres pays, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, donne les mêmes résultats. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas baisse du chômage, mais augmentation du chômage assez systématiquement, très systématiquement même, mais en plus, il n'y a pas rétablissement des comptes publics. Au contraire, à chaque fois, il y a augmentation du déficit public dans les différents pays, et du coup, c'est un cercle vicieux, augmentation du déficit public, ils continuent à baisser les dépenses, bon, et la situation se perpétue ainsi. Avec une remarque moi, que j'ai entendue, qui est assez significative, par exemple, au niveau des classes moyennes en France, sur le thème: ils augmentent la fiscalité, mais il y a toujours autant d'injustice fiscale, c'est-à-dire que les riches continuent toujours à échapper à l'impôt, ce qui crée du coup un mécontentement, y compris dans les classes moyennes, pas sur le fait en soi pour ou contre la fiscalité, mais ce sentiment qu'avec ce gouvernement, rien n'a changé par rapport au gouvernement précédent sur le fait que les riches et les grandes entreprises échappent à l'impôt, pendant que les pauvres et les classes moyennes et les petites entreprises, elles, sont matraquées fiscalement de leur point de vue. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce gouvernement, bizarrement, si on peut dire, compte tenu du rapport de force actuel, est dans la recherche d'un compromis historique avec le patronat. Or, le patronat n'a pas besoin de compromis aujourd'hui, parce que de toute façon, le rapport de force est pour lui. Hein, et on le subit suffisamment, non seulement en France d'ailleurs, mais dans d'autres pays. Et en plus, bon, vous avez vu que le changement à la tête du MEDEF avec le fils Gattaz n'annonce pas la recherche d'un compromis historique, c'est exactement le contraire. Donc dans ce cadre-là, que faire? Il y a un chiffre intéressant aussi dans les sondages, c'est qui était publié dans l'Humanité ces derniers jours, qui disait 89% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle en ont une image positive aujourd'hui, toujours. Hein. Donc ce qui veut dire que nous avons au niveau du front de gauche un électorat qui est fidélisé. 89%, c'est important, un an après. Je veux dire, très souvent, hein, il y a des électorats assez volatiles qui vont aller à une élection voter pour... On l'a connu, hein, que ce soit pour les Verts, soit pour Besancenot et ainsi de suite, même pour Arlette Laguilla à une époque, et qui ensuite vont faire un autre choix politique. Nous avons, en tant que Front de Gauche, donc un socle qui est ce socle de l'élection présidentielle qui est maintenu, et ça c'est important. Et nous l'avons, nous le voyons aussi dans les estimations nous concernant. Donc, que faire? Le gouvernement ne va pas changer de cap uniquement parce que nous ferons pression. C'est bien évident, c'est une ligne assumée. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne savent pas comment faire. C'est-à-dire, quand on regarde d'où vient François Hollande et ce qu'il a pu faire tout au long de ces années, tout ce qu'il a pu exprimer, c'est une ligne assumée de bascule de la social-démocratie française, qui était la dernière à être plus ou moins dans un courant réformiste, vers un courant type démocrate, que ce soit comme le SPD, comme le PSOE ou d'autres à l'échelle européenne. Donc dans ce cadre-là, il faut qu'on arrive à construire un rapport de force, à la fois en s'appuyant évidemment sur les mobilisations, sur la mobilisation du mouvement social, des syndicats, et ainsi de suite, et qu'on arrive aussi à transcrire ce rapport de force dans les échéances électorales à venir, et notamment une échéance qui pour nous est une échéance favorable, qui est l'échéance européenne. C'est une échéance favorable parce qu'il y a un rejet des politiques européennes qui est menée, et c'est la nécessité pour le front de gauche d'apparaître comme la force, comme le front qui est capable justement de démontrer la nocivité de ces politiques européennes, bon ça les gens en sont assez convaincus, et le fait qu'il est possible de faire autre chose. Et c'est l'enjeu que nous avons pour l'année à venir. Quand nous disons nous pouvons passer devant le Parti Socialiste, c'est pas simplement de la propagande. Je rappelle pour ceux qui en doutent qu'aux dernières européennes, les Verts étaient à un demi-point du score du Parti Socialiste, un demi-point seulement. Donc ça montre que le Parti Socialiste peut être battu dans ces élections, d'autant plus en ce moment, et qu'il est de notre responsabilité de faire tout faire pour cela, de mener cette bataille pour que aux élections européennes, nous soyons devant donc le Parti socialiste, parce que c'est ça qui inversera le rapport de force et qui obligera à l'ensemble des forces, qui, y compris au sein du Parti socialiste, à Europe Écologie, sont critiques par rapport au gouvernement, mais par rapport à la politique menée, mais restent quand même dans le cadre soit PS, soit Europe Écologie, se posent des questions et soient disposés à faire des pas en avant pour mener avec le Front de Gauche une autre politique.
Alors, Marie-Pierre Vieux, la mobilisation sur les retraites, faire valoir des contre-propositions. Martine Billard vient de parler des politiques discutées au niveau européen et de l'importance de l'enjeu des européennes. On en a encore un exemple ce matin avec la sommation du vice-président de la Commission européenne dans un entretien au journal du dimanche, qui dit que, en prévision du prochain budget, que la discipline budgétaire doit passer par une baisse des dépenses publiques et non par de nouveaux impôts. Il signifie au gouvernement que les impôts sont à un niveau excessif et qu'il n'est pas question de les augmenter d'une manière, sauf pour une contribution climat-énergie. Vous aussi, vous êtes sur cette idée des européennes, enjeu majeur et principal enjeu de l'année?
Je suis sur l'idée que les européennes sont un enjeu majeur, en ce sens que la question européenne débloque la question nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute politique progressiste au niveau français implique de réorienter la construction européenne, de faire d'autres choix. C'est ce que tu viens de dire sur la question des dépenses publiques. Ceci étant dit, je pense que je voulais dire deux mots sur la nature du Parti socialiste et sur la rentrée qu'on vit. Moi, je partage en partie ce que dit Martine. C'est-à-dire que, dès l'année dernière, on pointait le fait qu'on avait élu un gouvernement qui tournait d'emblée le dos aux attentes populaires. Parce que c'est vrai que tous dans la salle, on va dire, on n'attendait pas grand-chose d'Hollande. N'empêche que, majoritairement, les gens qui ont battu Sarkozy ne pensaient pas qu'Hollande, aussi vite, irait aussi loin. Et dans le remodelage de la société, mais à l'encontre des attentes populaires. Et je crois que sur cette rentrée, quand même, on a beaucoup évoqué Valls ces trois derniers jours. Mais dans les choix que fait Valls, l'année dernière, il rentre sur les Roms. Cette année, il rentre sur le regroupement familial. On a quand même quelqu'un dans le gouvernement qui, à la fois, est à la proue du social-libéralisme, mais en plus est en train de décliner de manière sécuritaire et autoritaire la question du social-libéralisme. Et on est face quand même à un gouvernement, on a parlé dans les textes du Front de Gauche de social-libéralisme assumé, qui essaie quand même de participer à l'évolution des rapports de force dans ce pays et gagner à sa politique. C'est-à-dire que quand Hollande y dit « En cette rentrée, on fait la réforme des retraites. En cette rentrée, le budget va être un budget d'austérité parce que pour relancer la croissance, il faut baisser maintenant les déficits publics. » Eh bien, il essaie en même temps de gagner une partie de l'opinion publique sur l'idée qu'il n'y aurait point de salut ou qu'il n'y aurait point de possibilité d'ouvrir notre politique à gauche à l'avenir tant qu'on ne passe pas encore par ce cap de l'austérité. Et donc, je voulais dire ça d'emblée parce que je pense quand même qu'on est confronté à cette situation-là qui crée un blocage, qui crée de la désespérance. Il y a un facteur à ajouter quand même à tout ce qu'on s'est dit, c'est que durant cette année, au-delà de ça, il y a la crise qui se poursuit. Et puis, il y a eu tout l'épisode de crise politique et institutionnelle avec l'affaire Cahuzac qui nous a amené à replacer la question de la 6e République et la question sociale au cœur de toute l'activité du Front de Gauche. Donc je crois qu'on n'est pas sorti de cette période de blocage politique. Et qu'en sortir, ça veut tout à la fois se positionner de manière extrêmement radicale, c'est-à-dire ne rien banaliser de la situation qui nous est faite et qui est une situation qui amène à un recul de tout ce qu'on a quand même. La question des retraites, c'est la question qui a fédéré le mouvement de 2010. Ce qui se passe avec l'acte 3 de la décentralisation amène y compris à une austérité dans les collectivités locales qui était pourtant un bastion de solidarité par rapport aux politiques nationales. Et on vient d'évoquer la question européenne. Mais en même temps, c'est le deuxième point que je voulais donner. Quand on parle d'être les plus radicaux, en même temps les plus radicaux, c'est porter la question du rassemblement Et la question du rassemblement à l'échelle de la gauche, c'est-à-dire ouvrir une autre perspective à gauche et par tous les moyens chercher à créer du rassemblement pour pas, à un certain moment, amener à ce que bien le refus de cette politique amène la bascule et amène au retour de la droite et à l'extrême droite. Parce que quand même, il y a une question politique majeure qui nous est posée à nous, Front de Gauche. C'est que depuis un an, ce discours, on le tient, on cherche des initiatives pour créer du rassemblement. Mais n'empêche que sur les élections partielles, pour le moment, le refus d'Hollande ou le fait qu'on conteste cette politique n'amène pas en effet à défaire la force du Front de Gauche, mais n'amène pas le Front de Gauche à être perçu majoritairement par nos concitoyens comme une alternative politique. Sur les élections partielles, c'est le Front National qui monte. Donc cette question, il nous faut la traiter. Et pas la traiter comme un problème entre nous, mais la traiter pour prendre les initiatives à la hauteur de ça. Deux mots pour vous dire que quand même, c'était l'objectif de la manif du 5 mai. C'était l'objectif des assises, où on a été chercher à gauche tout ce qui pouvait concourir et travailler à égalité sur un changement de cap, ce qui a mené une partie ou une toute petite partie ou des individus socialistes à venir discuter avec nous, ce qui a mené également Europe Écologie à venir discuter avec nous, ce qui a mené surtout, je reviendrai sans doute, à une partie du mouvement social à s'engager dans ce débat parce que d'après moi c'est un levier majeur. Et je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus et à travailler la force de l'équivalent d'un grand front populaire de notre temps. C'est une formule à l'emporte-pièce, mais c'est à cette hauteur-là qu'il faut travailler. Pour finir, parce que tu m'as lancé sur l'Europe, bien évidemment que les questions électorales et la question européenne, en ce sens qu'elle a du contenu par rapport à la perspective politique, est une question majeure et que cette question, eh bien, il faut la prendre dans cette perspective de rassemblement en France et à l'échelle européenne, parce que ce qu'on vit en France, Martine l'a très bien dit, est reproduit à l'identique dans beaucoup de pays européens avec des expériences diverses. Il y en a une qui nous intéresse, vous le savez tous, en Grèce avec Syriza, mais également ailleurs, je pense à l'Espagne avec Esquerra Unida.
Clémentine Autain, pour sortir du blocage politique dont parlait Marie-Pierre Vieux, est-ce que l'évolution du PS peut être une aide? Ou dit autrement, est-ce que cette évolution peut accroître l'audience, la crédibilité du Front de Gauche auprès de l'électorat et peut amener un certain nombre de socialistes, d'écologistes à se rapprocher du Front de Gauche?
C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on n'a jamais à gagner de la droitisation de la gauche. Jamais. De ses pans. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de Manuel Valls, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que Manuel Valls, depuis le début, a pu tenir les propos, comme a dit Marie-Pierre, à la fois sur le terrain du libéralisme économique et sur un terrain sécuritaire contre les Roms, le regroupement familial, y compris sur la justice dans le débat avec la loi en préparation pénale défendue par Taubira, qui est quand même plus progressiste que le projet proposé par le ministre de l'Intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, il fait tout ça sans être rabroué par le président de la République et par le Premier ministre. Or, rappelez-vous, quand Arnaud Montebourg, un temps, avait haussé le ton sur ArcelorMittal, immédiatement, il a été sifflé pour lui dire « c'est terminé, on n'a pas le droit de dire ça ». Quand Delphine Bateau a dit « c'est un budget d'austérité », elle a été remerciée. Quand Manuel Valls tient les propos qu'il tient, il n'est non seulement pas rabroué, pas remercié, mais applaudi au plus haut sommet de l'État et du gouvernement. Et moi, c'est ça qui me préoccupe, parce qu'il n'y a pas un problème Valls, il y a bien un problème de la majorité gouvernementale et du phénomène héros. Alors, pour autant, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre ce qu'est cette décision au plus haut sommet et ce que penserait la majorité des sympathisants, des militants socialistes, la majorité des sympathisants et des militants écologiques. Bien sûr qu'il y a des contradictions, bien sûr qu'il y a des gens qui sont désorientés. Prenons en considération cela, il y a des gens qui sont désorientés et il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, qui sont écœurés, mais qui pour l'instant ne voient pas dans le Front de Gauche la réponse aux questions qu'ils se posent. Eh bien, notre tâche majeure pour l'année qui s'ouvre, c'est de convaincre, de rassembler toutes celles et ceux qui sont capables de retrouver le chemin de l'espoir à gauche avec nous. Il faut reconstruire l'espérance à gauche. Il faut que nous soyons là où le PS a désorienté l'identité de la gauche. Elle a bousculé l'identité de la gauche. C'est un problème qui est grave et nous avons une responsabilité historique qui est celle de redonner le cap sincère de ce que peut être une politique de gauche, c'est-à-dire qui améliore les conditions de vie du plus grand nombre. Nous sommes enlisés dans un système infernal, un cercle vicieux, où droite comme gauche, d'ailleurs ça devient la limite totale du système d'alternance, l'épuisement de l'électorat, il vient aussi de là. On passe à droite, on passe à gauche, on passe à droite, on passe à gauche et rien ne bouge. Rien ne bouge, c'est désespérant de la politique, il faut mesurer ça. Or, les politiques d'austérité, très clairement, apportent de la récession économique, des inégalités sociales profondes qui sont donc creusées, on l'a vu partout en Europe, mais en bout de course, et je trouve quand même que c'est le clou de l'affaire, cette affaire-là, elle creuse les déficits publics. C'est-à-dire que ça ne répond même pas à la question qu'eux-mêmes se sont posée, qui est de résorber la dette. En Grèce, on en est à je ne sais plus le combienième plan pour sauvegarder la Grèce. Et les déficits se sont creusés. La dette est supérieure en termes de pourcentage du PIB considérablement par rapport au début de la crise. Et le pays est dans un état social et économique déplorable. Ça ne marche pas. Donc, puisque ça ne marche pas, il faut tenter autre chose. Et ce qui est vrai, c'est que dans cette alternative, cette autre chose, cette façon de prendre les problèmes tournés vers la contestation du pouvoir du capital, parce que c'est quand même de ça dont il est question. Il s'agit de tenir tête au pouvoir financier. Il s'agit de dire aussi qu'avec l'urgence écologique, il faut changer de modèle de production en profondeur. Il y a une part d'inconnu dans cette affaire-là. Et cette part d'inconnu, elle peut faire peur. Moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas parce qu'on va d'un seul coup devenir plus crédible au sens où on aura des propositions hyper précises, etc., que l'espérance va grandir. Je ne crois pas ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, des idées s'imposent, c'est parce qu'elles sont portées par une majorité de nos concitoyens. Je dis toujours, mais les congés payés, souvenez-vous, ce n'est pas une idée qui a été inventée dans un parti politique ou par un intellectuel, etc. C'est une idée qui semblait improbable dans les années 20-30 et qui, à un moment donné, parce qu'il y a eu un mouvement populaire, est devenue une idée non seulement crédible, mais qui s'est traduite dans la réalité. C'est la même chose que nous devons reproduire. Nous devons absolument travailler l'hégémonie culturelle, construire un autre imaginaire, être capable de mobiliser, de nous ouvrir, d'ouvrir les portes et les fenêtres, de nous adresser aux citoyens qui sont désorientés et de transformer ce qui fait le miel du Front National, la désespérance et le ressentiment. Mais le Front National, lui, travaille sur le ressentiment. Nous devons travailler sur la colère légitime du peuple et la transformer en espérance. Voilà notre tâche centrale pour cette année. Et je pense que... J'y reviendrai tout à l'heure plus précisément parce qu'on a des échéances électorales, on a la bataille des retraites, je dirai un mot sur les municipales et les européennes. Mais ce qui me semble important à dire d'emblée, c'est qu'il faut avoir conscience que nous avons un travail à mener de consolidation, de renforcement du front de gauche. Le front de gauche est un outil capital, précieux, déterminant pour cette tâche. C'est le creuset du rassemblement. Et non seulement nous devons le protéger, nous devons être solidaires les uns des autres, mais nous devons l'ouvrir, le structurer, être des acteurs insatiables de ce rassemblement à toutes les étapes, dans toutes les échéances, et c'est la condition sine qua non de notre progression.
Alors, peut-être Martine Billard. Clémentine vient de parler d'ouvrir, de consolider le front de gauche. Peut-être faudrait-il aussi voir comment cela est possible. On a beaucoup entendu parler d'autres années. C'est pas la première fois qu'il y a ce rassemblement ici. L'année dernière, on parlait d'ouvrir le front de gauche à des gens qui veulent adhérer au front de gauche, par exemple, sans adhérer à une des formations. Il y a aussi d'autres, il reste quelques formations à gauche qui ne sont pas dans le front de gauche. Comment voyez-vous cette ouverture, cette consolidation ?
Je crois qu'il faut surtout que le Front de Gauche se tourne vers le peuple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on reste entre nous, qu'on reste dans le microcosme. L'objectif, c'est bien de mobiliser les classes populaires, ce n'est pas uniquement de fonctionner entre nous. Et pour cela, je crois qu'il y a une première obligation, c'est de partir des préoccupations du quotidien des gens. Parce que aujourd'hui, bon, et c'était le sondage que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression, et c'est pour ça qu'ils disent « Oh, la gauche, la droite, c'est pareil », qu'on ne s'occupe pas d'eux. Hein, ce sentiment de désespérance, tu disais Clémentine, sur lequel fonctionne le Front National, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'impression d'être abandonné. Et c'est particulièrement vrai dans un certain nombre de zones, que ça peut être les zones rurales comme ça peut être les quartiers populaires, où il y a eu la fermeture des services publics, où souvent il n'y a plus beaucoup de militants qui apparaissent, et ainsi de suite. Où du coup, où en plus, dans les zones à difficulté de déplacement, avec la montée du prix des carburants, les gens ne peuvent plus se déplacer facilement. Donc les gens disent, personne ne s'occupe de nous, personne ne s'intéresse à nous. Donc je crois qu'une des tâches du Front de Gauche, c'est justement de s'adresser donc, à cette partie de notre peuple, hein, et de faire des propositions en leur direction. Sinon, on n'arrivera pas à élargir le Front de Gauche, notamment dans toutes ces zones. Parce que, à partir de la force qui a été la force de la campagne présidentielle, à partir de l'année dernière où nous avons fait beaucoup de choses, il y a eu la manifestation de septembre, rappelez-vous, hein, qui a représenté effectivement une capacité de mobilisation à la fois politique, à la fois sociale, qui a permis de booster la mobilisation le reste de l'année. Ensuite, il y a eu la marche du 5 mai, qui était la marche pour la 6e République. Donc nous devons, dans l'année qui vient, non seulement être évidemment dans les mobilisations sur les retraites, nous devons aussi être capables de faire des démonstrations de force, parce que ce sont les démonstrations de force qui entraînent derrière. C'est notre capacité à montrer que le Front de Gauche a des propositions et qu'il est capable de les porter qui peut convaincre de rejoindre le Front de Gauche. Alors bien évidemment, il reste encore quelques forces à l'extérieur du Front de Gauche à gauche. Bon, on n'arrête pas de dire, le Front de Gauche, c'est pas un espace fini, tout le monde peut rejoindre le Front de Gauche, du moment qu'il est en gros d'accord quand même avec ce que porte le Front de Gauche. Il va y avoir des échéances. Moi, je crois aussi que pour que le Front de Gauche soit crédible, parce que c'est un petit peu ça notre problème aujourd'hui, c'est comment passer de 11% à 20% en gros, hein, pour que le Front de Gauche soit crédible, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la constance dans notre façon d'être, qu'il faut qu'il y ait un accord entre nos actes et nos discours. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, hein, c'est ouais, les politiques, ils parlent, ils font le contraire. Donc nous devons être ceux qui portent l'éthique en politique, qui sont les meilleurs justement dans le fait d'être cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça, ça passe dans les mobilisations, ça se passe dans le quotidien et ça se passe aussi dans les échéances électorales. Parce que sinon, on crée de la confusion. Et je crois que à l'heure actuelle, radicalité, oui, nous sommes tous sur la radicalité, bien évidemment, rassemblement. Mais le rassemblement, il faut être clair que c'est le rassemblement du peuple. Hein, donc quand tu dis aller vers un front populaire, c'est le rassemblement du peuple. Et que c'est en portant ce rassemblement du peuple qu'on peut entraîner les autres forces, que je disais tout à l'heure, que soit une partie des militants du Parti Socialiste ou une partie des militants d'Europe Écologie. Mais je crois qu'il faut partir de ces objectifs de rassemblement populaire, entraîner, animer par le Front de Gauche, et qui puisse entraîner d'autres forces. Ce n'est pas en commençant d'abord par essayer de négocier entre forces qu'on peut arriver à provoquer cet entraînement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser, bien évidemment, au fait d'arriver à entraîner. Parce que pour créer une nouvelle majorité avec, qui puisse mettre en œuvre les propositions que nous portons, il faut bien évidemment aller au-delà des forces du Front de Gauche. Mais c'est sur la base d'une dynamique, sur la base d'un projet porté, sur la base d'une implantation que nous arriverons à entraîner les autres forces. Sinon, nous sommes un peu dans la cuisine électorale. Et moi, je terminerai sur un point. Nous savons, il faut être clair, nous savons qu'il y a des nuances entre nous sur au moins l'échéance des municipales, bien évidemment. Bon, nous devons passer ces échéances au mieux. Mais en tous les cas, il faut que nous ayons un discours clair, c'est-à-dire quand nous critiquons le gouvernement, quand nous critiquons les politiques de ce gouvernement, quand ce sont les mêmes dans les municipalités, nous ne pouvons pas d'un côté critiquer les politiques nationales et de l'autre nous taire localement. Nous devons être cohérents, je crois que c'est comme ça que nous reconstruirons l'espoir à gauche.
Marie-Pierre Vieux, dans votre première intervention, vous parliez de l'austérité qui va se déporter maintenant, qui va descendre dans les collectivités locales. Le Front de Gauche, depuis plusieurs années, dans la dernière campagne et toute l'année dernière, s'est opposé à l'austérité. Dans cette échéance municipale, le Front de Gauche va-t-il pouvoir continuer à faire valoir ce discours contre l'austérité? Par quels moyens peut-il affirmer ainsi son identité en gardant la constance qu'évoquait Martine?
Bonne question, c'est la question des municipales que tu me poses donc. Hein. Moi je crois que d'abord, pour les élections municipales, le premier objectif du Front de Gauche, il est quoi? Il est de créer à l'échelle des municipalités des rassemblements pour imposer des politiques, comme tu le dis, anti-austéritaires, c'est-à-dire de solidarité, de citoyenneté. On parle de quoi? On parle du logement, on parle de la culture, on parle de la petite enfance et de l'école. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous sont élus, mais c'est ça qu'on a à traiter. Et puis, on parle finalement de protéger les populations face aux politiques qui sont menées aujourd'hui et malheureusement ici par un gouvernement socialiste. Donc je crois que la difficulté des municipales, elle est laquelle, selon moi? C'est qu'il faut tout à la fois travailler à cet objectif, et nous, les communistes, on dit dans des dynamiques les plus larges dès le premier tour, et en même temps, eh bien, travailler avec une lisibilité du Front de Gauche qui continue à être en cohérence avec ce qu'on s'assigne depuis sa création, depuis 2009, et prenant en compte l'analyse qu'on donne de la situation politique en cette rentrée. Donc voilà, l'exercice, il n'est pas simple. Mais très franchement, après, il y a débat, avançons-nous. Mais nous, les communistes, on est quand même convaincus que dans la part des élections municipales, il y aura une part nationale, puis il y aura une part locale. Que donc la situation, elle n'est pas la même selon l'ensemble des villes. Moi, je suis dans une ville où le maire est UMP. Et la question qui nous est posée, elle est à la fois battre le maire UMP et imposer une politique comme je l'ai décrite. Donc, on travaille à ça. Et on travaille à la fois sur un premier tour et sur un second tour. Donc, j'ai participé hier au débat sur la gauche. Et c'est vrai que l'autonomie au premier tour, on l'entend aux applaudissements sur Martine, est une exigence qui est ici majoritaire dans la salle. Il y aura des listes autonomes au premier tour, ou en tout cas des listes sans le PS au premier tour dans beaucoup de municipalités. Mais ce que je voudrais ajouter ici, c'est que même quand on fait des listes autonomes au premier tour, ce qui est d'ailleurs le cas dans la ville où je suis, les listes autonomes qu'on va mener au municipal et l'ambition qu'on va défendre au municipal n'est pas simplement de se démarquer du Parti socialiste, mais elle est d'imposer majoritairement donc des politiques. Et la question du rassemblement de la gauche, elle est posée au premier tour et au second tour. C'est-à-dire qu'au second tour, une fois qu'on aura préempté un rapport de force, qu'on aura fait grandir des choses, se posera quand même la question de battre la droite et de battre l'extrême droite, et d'ailleurs dans des cas elle se pose dès le premier tour. Ça que je... Non mais laisse-moi finir s'il te plaît, laisse-moi finir, parce qu'à un moment on n'est pas droitier parce qu'on pense qu'on ne veut pas laisser les municipalités et les majorités municipales à la droite et au Parti socialiste. On va jusqu'au bout, ce débat on l'a. Aujourd'hui les communistes, ils ont des milliers d'élus dans toute la France, avec des bilans municipaux parfois dans des villes qui dirigent, avec des socialistes, avec des verts, avec d'autres élus de gauche. Est-ce qu'on regarde ou pas les politiques qui ont été menées dans ces villes? Et quand elles ont été de véritables politiques de citoyenneté et de solidarité, on décide d'emblée de les condamner en disant autonomie dès le premier tour sans regarder tout ça. Donc moi je suis pour un Front de Gauche autonome, mais autonome politiquement. Et on n'est pas autonome contre, on est autonome en construisant du rassemblement. Alors, donc voilà, je crois que c'est cette difficulté qu'on a à régler. On le sait, en plus on est de cultures quand même qui ne sont pas les mêmes au départ. Moi, je suis communiste, parti communiste, il gère depuis des décennies des municipalités dans l'union de la gauche. Quand il a créé le Front de gauche, il a rompu avec cette stratégie-là. Y compris Martine, il faut des actes en conformité avec ce qu'on fait. Mais depuis l'élection de François Hollande, quels ont été les actes du Front de gauche, et y compris des élus communistes ? On n'a pas voté la confiance au gouvernement. On n'a pas voté le budget. Dans un certain nombre de collectivités, partout d'ailleurs, on s'est battu dès l'année dernière contre les budgets d'austérité. Donc je crois que tout cela, il faut le prendre en positif et continuer. Voilà. Et je pense, pour finir, que vraiment, sur la question des municipales, il faut garder le sens. Je pense que Clémentine me répondra ce qu'elle m'a répondu un jour à un débat. Et au bout du compte, quel message donnera le Front de gauche sur l'élection municipale, et notamment dans les grandes villes et autres ? Cette question, il faut s'y atteler, et s'y atteler collectivement. Mais je suis que pour les municipales, comme pour l'élection qui lui succédera, les européennes, qu'on se batte justement dans l'idée de maintenir vraiment notre stratégie, qui est à la fois une stratégie de ne rien concéder, mais une stratégie de rassemblement, et qu'on essaie vraiment de s'écouter à défaut d'être d'accord sur tout, mais en se disant qu'on est les uns avec les autres, et que sortir des municipales, non pas des faits, mais ensemble, ça sera le meilleur moyen ensuite de s'atteler aux européennes. Et je crois que le Front de gauche, il est divers. On est confronté à une situation exacerbée par le fait que la gauche est arrivée au pouvoir. Mais je crois que on va pas s'arrêter là, sur cet obstacle. Je suis pour que les uns les autres, on s'écoute et qu'on avance dans le rassemblement de ce qu'on est et dans le rassemblement dans la société.
Alors, Delphine, pour s'affirmer comme une alternative, le Front de gauche a besoin d'un projet. Il a besoin aussi, tu l'évoquais dans ta première intervention, il a besoin aussi de pouvoir débattre publiquement, de confronter des divergences et d'aboutir à un certain nombre de convergences. Dans l'année qui vient, sur les échéances qui ont déjà été évoquées, comment cette tâche, ce renforcement est envisageable ?
Oui, alors par rapport à l'année qui vient, aux échéances qui nous sont posées, à mon sens, il y a deux leviers qui interviennent. Comme je le soulignais un peu, il y a effectivement la partie mobilisation sociale, où effectivement on arrive à créer du lien avec le mouvement associatif et le mouvement syndical qui nous permet d'aller un peu au-delà. Et sur la question des échéances politique, ça nous permet aussi d'avoir aussi un peu une traduction, notamment en parlant de proximité sur tout ce qui est service public petite enfance, comme le disait Marie-Pierre. Ça nous permet déjà d'avoir des connaissances des problématiques qui sont liées à l'ensemble des services publics gérés en partie par les municipalités. Et donc du coup, ça nous permet aussi de se réapproprier ces problématiques-là dans des politiques d'alternative contre l'austérité. Donc c'est autant de sujets qu'on peut décliner par rapport aux compétences des mairies qu'il nous faut travailler. Et par rapport à ça, ça nous amène aussi sur la question de la conception du contenu. Le contenu des projets qu'on portera sur les municipalités, là où on est présent, vont nous permettre aussi non seulement de construire des alternatives aux politiques d'austérité, menées de façon globale et dans les municipalités par rapport au budget. Et ça nous permet aussi d'avancer. Alors, quand on parle de contenu aussi, ça nous permet aussi de discuter non seulement avec les gens, d'intégrer les propositions éventuellement qui émanent des mouvements sociaux, mais aussi ça nous permet aussi de discuter sur ces alternatives qui nous sont posées. Alors, effectivement, on parle du projet. Techniquement, le Front de gauche a déjà un projet puisqu'on a mené la campagne présidentielle autour du programme L'Humain d'abord. Ceci dit, il nous faut continuer à travailler ce projet. Il faut continuer aussi à le développer, à le populariser, parce que malgré tout, on a encore beaucoup de travail à faire sur ce projet-là. Et il faut pas... Il faut arriver à faire en sorte que non seulement des propositions clés soient intégrées dans les campagnes qu'on va mener sur les échéances électorales. Et puis, il nous faut aussi arriver à créer de la dynamique autour de ces échéances. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de créer des leviers. Moi, honnêtement, les municipales, ça reste une étape. Ça reste une étape qui va se passer dans la diversité de l'ensemble de nos situations. Mais en même temps, on va passer cette étape-là, on passera ensuite aux européennes et on dressera aussi un bilan et on verra ce qu'il en ressort. On verra aussi de comment on aura pu, dans certaines localités, mettre en place des leviers qui nous permettent de créer des dynamiques locales. Et c'est autant de points d'appui dont on pourra se servir justement dans le cadre du développement du front de gauche, comme le soulignait Clémentine, qui vont nous permettre aussi d'arriver à passer au-delà et de peut-être de franchir un cap. Voilà, mais c'est quelque chose qui se passe sur le long terme. À mon sens, le Front de Gauche existe depuis maintenant 4 ans. On a vécu beaucoup d'expériences en commun. On y a toujours été étape par étape. Et pour le coup, le Front de Gauche, ça devient du long terme. Et il faut aussi penser sur le long terme. Autant on peut avoir des difficultés sur certaines échéances, mais il nous faut aussi, à chaque fois, on a réussi non seulement à passer ces difficultés, mais on a toujours été en progression. Ceci dit, sur la question ensuite, les européennes qui vont arriver après, il va falloir être prudent aussi parce que les municipales seront passées. La situation politique peut aussi évoluer très vite et il faudra faire aussi attention à ce qu'on puisse évoluer dans des conditions sereines vis-à-vis de la situation. Voilà.
Clémentine Autain. Delphine, elle, vient de parler d'une étape, vient de dire qu'il fallait penser sur le long terme, mais en même temps, dans la vraie vie, il y a une urgence. Une urgence sociale, il y a des gens qui vont mal. Et on en revient à la première question, comment, dès cette année, on peut organiser une alternative? Est-ce qu'on peut envisager un changement de cap sans attendre un hypothétique changement en 2017?
Oui, enfin, il faut progresser déjà. Il faut qu'on progresse et on a une échéance qui sera l'objet de la table ronde suivante, qui est celle des retraites. Et je pense que cette rentrée sociale, en dépit d'un timing qui est un timing infernal, qui a été imposé par le gouvernement et qui, d'une certaine manière, est antidémocratique, il faut que dans les semaines qui viennent, nous soyons très forts par les collectifs locaux les plus rassembleurs possibles et par la dynamique nationale, porteurs d'une logique totalement alternative, d'autant que cette question des retraites ce sera dit tout à l'heure, mais elle met en avant ce qu'est la logique qui consiste à favoriser le capital au détriment du travail, et elle pose toute la question de la logique économique actuelle. Donc ce sera un temps qui est un temps très important. Et cette année, nous aurons deux échéances électorales qui vont être l'occasion de s'affirmer, de porter nos idées. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les deux. Je pense que la question des municipales est pour nous un enjeu potentiellement structurant. D'abord parce que c'est une élection qui intéresse considérablement les Français. Et deuxièmement parce qu'une force politique qui veut se construire sur un territoire, sur le territoire national, elle se doit d'être au rendez-vous des municipales, parce que c'est l'occasion d'engranger des militants, de mettre un certain nombre de personnalités locales sur des listes, etc., de faire du porte-à-porte. C'est une élection qui est une élection, je déteste ce terme qui est d'habitude tarte à la crème, mais on va dire de proximité, et qui permet donc de nouer des liens en profondeur. Bon. Pour répondre à Marie-Pierre et peut-être pour avancer dans le débat qu'on a eu plusieurs fois, je voudrais d'abord lui dire que finalement la question qui est posée est celle de l'efficacité. Parce que moi je partage l'idée qu'il faut avoir des élus, évidemment. Avoir des élus c'est une force, mais comment en avoir durablement? Comment faire grandir? Ce qui garantira que nos élus sont utiles, que nos élus sont nombreux, c'est que nous soyons cohérents, identifiés par le plus grand nombre, par une stratégie politique lisible. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec l'idée qu'on opposerait une logique qui serait sauver les élus et l'autre logique qui serait des listes autonomes de premier tour. Mais c'est quoi cette histoire? Pour avoir des élus qui comptent, qui pèsent, qui servent à quelque chose. Un militant du Rassemblement dès le premier tour et derrière le... Non, je déconne. Non, je plaisante. Donc, nous devons. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux choses et que c'est bien au nom de l'efficacité que je et nous, je tiens à dire le nous, parce qu'il y a un rassemblement en cours à l'intérieur du Front de Gauche et qui vise justement à être plus efficace dans le Front de Gauche, qui rassemble la gauche anticapitaliste, la phase convergence et alternative et les alternatives et une partie de la gauche unitaire et d'autres militants qui ne sont pas encartés, etc. Et ce rassemblement a déjà contribué à une réflexion sur les municipales et à un positionnement. Et il ne s'agit pas de dire que dans les 36 000 communes, il y aura une autonomie et que jamais, ni de près, ni de loin, etc. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui va donner le là. Quelle sera la cohérence entre les municipales et les européennes et quelle sera la dominante et les exceptions. C'est ça que nous disons. Et nous disons que la dominante doit porter sur l'affirmation du Front de Gauche dans son unité, dans son positionnement. Et que c'est ça qui permet notre renforcement. Et il faut prendre le... C'est un débat sérieux, hein. C'est un débat... je veux dire, moi, je pense que nous avons des traditions, comme l'a dit Marie-Pierre, et c'est vrai, qui sont différentes. Et moi, je mesure le chemin qui a été parcouru par le Parti communiste français. Et quand, d'ailleurs, les journalistes nous interrogent beaucoup sur « vous avez des divergences », c'est pas vrai. Le socle stratégique commun du Front de Gauche, il est substantiel. Et nous le tenons, et les communistes le tiennent. Et donc, nous devons passer ces échéances avec le plus de cohérence possible et en ayant confiance dans notre force. Mais soyons lucides, nous allons avoir une pression qui est une pression considérable à cause de l'extrême droite qui monte. Et vous avez vu que l'université d'été du Parti socialiste, elle a été énormément polarisée autour de l'enjeu de la bataille contre l'extrême droite, résumée par « donc il doit y avoir l'union de toute la gauche pour répondre à... » Ben oui. Comme ils n'ont pas d'autre argument, il faut bien qu'il y ait un argument. Et l'argument est pour battre l'extrême droite, il faut l'union de toute la gauche au premier tour. C'est ça qui va monter dans le débat tout au cours de l'année. Nous devons muscler notre argumentaire parce qu'il tient sur cette question. Ce qui nourrit l'extrême droite, ça a été bien sûr la bataille contre le mariage homo du printemps dernier et qui a été très forte pour mobiliser la droite la plus dure. Mais également la désespérance sociale, elle nourrit l'extrême droite. Elle est en partie responsable de la montée de solutions autoritaires, de repli anti-système, bien entendu. Bien entendu, donc c'est la première responsabilité. Donc pour combattre l'extrême droite, notre responsabilité, c'est d'ouvrir l'espoir. C'est en face de dire, oui, cette politique ne convient pas, et donc il y a une alternative qui n'est pas porteuse de repli, qui est porteuse d'espérance et d'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. C'est notre première mission pour battre dans la durée l'extrême droite de façon claire et nette, et certainement pas en marchant sur ses terres, en disant par exemple qu'il faut en finir avec le regroupement familial. Quand on dit des choses comme ça, on ne combat pas sérieusement l'extrême droite. Et deuxièmement, je voudrais juste dire que de par l'histoire tout simplement, quand est-ce qu'on a eu des belles victoires à gauche où il y avait l'union de toute la gauche au premier tour? Franchement, ça a dû arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça ne garantit pas. Même en 81, de mémoire, il ne me semble pas qu'il y avait un rassemblement de premier tour. À Paris en 2001, il me semble que les Verts étaient en autonomie dès le premier tour. Il n'est pas vrai que dans la situation actuelle, le rassemblement de premier tour permettrait à tout l'électorat de gauche de se rassembler. Et pour une raison simple, et je terminerai là-dessus, c'est que ce n'est pas la réalité des prix. C'est pas la réalité des prix. Il n'y a pas d'union sur le fond. Il y a deux logiques qui sont différentes, deux orientations qui ne sont aujourd'hui pas compatibles. Et il faut permettre aux électeurs de s'exprimer, et y compris au deuxième tour, pour pouvoir battre la droite et l'extrême droite, si on veut emmener des électeurs qui aujourd'hui ne veulent plus voter ni au premier ni au deuxième pour les socialistes parce qu'ils sont écœurés. C'est à nous d'abord de prendre nos responsabilités au premier tour et ensuite de mener la bataille au second pour dire qu'il faut impérativement faire en sorte que le sarkozysme, que le Front National ne revienne pas au pouvoir et n'ait pas davantage d'élus. Voilà notre tâche. C'est une tâche importante, sérieuse, mais je suis sûre que nous pouvons la mener en commun et réussir ces deux moments électoraux qui vont être très importants pour le renforcement du Front de Gauche.
Alors, très très vite... je pense qu'on pourrait conclure, mais Martine, juste vraiment très très vite, hein. Parce que là, on est à 2 minutes.
Non, oui, non, moi, je voudrais très vite, je vais dire un mot de conclusion. C'est qu'effectivement, le front de gauche est un outil unique et indispensable. Et donc, il faut continuer à renforcer notre front de gauche et à le construire. Et que le débat politique au sein du front de gauche n'est pas un problème, c'est une richesse. Que nos formes d'expression différentes n'est pas un problème, c'est une richesse. Il faut les assumer, parce que c'est comme ça que nous continuerons à être l'outil nécessaire à notre peuple.
Voilà, bien. C'est bon ? Ah, Marie-Pierre, très vite.
Non, moi je souscris à ce que vient de dire Martine. Je voudrais ajouter un mot qu'a dit tout à l'heure Clémentine. Elle a parlé de retravailler l'imaginaire. Et je crois que ce qui fait à tout moment la force du front de gauche, c'est justement qu'on n'est pas dans la stigmatisation, on est dans l'éducation populaire. Ce qui a fait la force de la campagne présidentielle, c'est ces meetings où progressivement on a repréempté des terrains. Et je crois que ce point-là est lié au rassemblement. Et moi, je voulais dire également que les communistes sont engagés dans le front de gauche et ils veulent continuer à développer et à ce que cet outil se développe.
Voilà. Bien. On cède la place. Il va y avoir...
Non. Non, non, mais que personne n'ait souligné qu'il y avait 4 nanas à cette table ronde me paraît quand même surréaliste. Et je trouve ça super bien.
D'accord.